et c'est fabuleux, quoi. Il m'a montré tout son matos. Donc il est capable, si tu veux, en fonction de la salle, en fonction de la taille de la scène, en fonction du public, de se dire, bah tiens, je vais mettre telle chemise, je vais plutôt prendre telle guitare, etc. Et bon, voilà, c'est l'anecdote. C'est... Et puis surtout, quand on a vu Charlie Batty avec les Night Cats, la première fois c'était au Québec, au festival de Mont-Tremblant, on a pris une rouste énorme. C'est pour ça que j'ai choisi le 10, parce que c'est un des plus beaux shows que j'ai vu ces dernières années.
C'est clair, là,
C'était eux. Voilà.
Ça fait partie de l'élégance.
Ils étaient à 5 ce jour-là en plus, parce qu'ils rejoignaient Kid Andersen, qui était déjà avec les Night Cats, quoi. Donc il était de passage et ça a été incroyable.
C'est toujours la même famille. Moi j'ai vu Rick Estrin avec Kid Ramos et Kid Andersen. Voilà, c'est des gens, c'est un petit peu un turnover. Alors, bon, on peut parler de Fred Kaplan, de Richard Reynes, des gens que vous connaissez aussi perso. Et voilà, il y a une espèce de scène comme ça qui existe depuis 30-40 ans. On peut rajouter Jimmy Vaughan.
Oui, enfin lui il est plus texan. Puis bon, Jimmy, il est. Du fait qu'il ait joué avec son frère qui était une rock star, il est quand même rentré plus dans le monde, dans le star system un petit peu, même si nous on l'a croisé, c'est un garçon, enfin un monsieur qui est charmant, qui est convivial, voilà.
Un monsieur d'une grande élégance, enfin, moi je le compare souvent, pas côté musical, mais côté
mais musicalement façon de vivre. Aussi, il est très élégant.
Oui, oui. mais tu vois, un gentleman comme un petit peu Charlie Musselwhite.
Oui, voilà, c'est un peu c'est le même style de.
Alors, je connais moins Little Charlie, j'ai jamais rencontré. C'est un personnage délicieux. Enfin, j'imagine que c'est voilà quelqu'un avec une belle conversation.
C'est quelqu'un de super. C'est un sudiste, Charlie Batty, même s'il habite maintenant en Californie. C'est quelqu'un, je crois, qui vient de l'Alabama. Donc c'est un peu le vieux sud, mais bon, pas le côté raciste des sudistes blancs. Hein. Non, c'est les vieilles familles, etc. Du sud des États-Unis.
Très raffiné comme mec, ouais.
Il y a un morceau que tu voudrais écouter particulièrement dans ce titre, dans cet
premier,
album.
That's Big, j'adore ce morceau-là.
That's Big, c'est le titre album. On va en plus ça. That's Big.
That's big.
Ah oui, alors c'est la plage numéro 5. On va caler ça tout de suite. On va écouter, grâce à Bernard Selam de Awake, Little Charlie and the Night Cats. That's Big. Ça avait été enregistré, il y a une petite quinzaine d'années chez Alligator Records. Il n'est plus chez Alligator Records, je crois.
Ils sont retournés chez Alligator. Ouais. C'est assez.
C'est récent.
Ils ont fait des allers-retours.
On écoute That's Big, Little Charlie and the Night Cats.
Hey, Jane.
What's that, Rick?
Hey, man, you see that one girl back there?
What girl was that?
Man, that big girl, that pretty girl. Back in the back, in the black dress.
Oh, man, I thought that was a solar eclipse.
Oh, come on, you know she looks good.
Mm-mm, baby, I take the lady with the skinny legs.
Not me, baby, I like them just like that. And them potatoes too. That's big. Ooh, that's big. Man, that's big. Damn, that's big. Boy, there's a whole lot of woman that sure looks good to me. She got great big hips, she got big thighs, just my type, they my shape and size. Bony little women, they just bruise me up. My little big fine woman just use me up. That's big.
Thank you.
love me, baby. Please don't stop. But just one thing, I got to be on top. Cause
Little Charlie and the Nightcats, That's Big, c'est enregistré en 2002 chez Alligator Records. Autrement dit, c'est un disque que j'avais pas forcément l'intention de vous passer aujourd'hui. Quand on prépare une playlist d'émission, on se dit, on va mettre des disques d'Awake, normal. Il y a Awake qui vient. C'était pas calé, mais ça s'est fait dans la soirée, hier soir au Soubok. En tout cas, c'était un énorme plaisir de pouvoir de prêter le micro à nos quatre compères qui nous viennent de Toulouse, qui vont jouer ce soir à Fauville-en-Co avec un groupe qui s'appelle Harley en première partie. Fauville-en-Co, c'est ancien Maritime, c'est quoi, une heure et demie des rues Saint-Clair, d'où vous allez repartir dans 5-10 minutes. Je voudrais vous remercier tout particulièrement pour le plaisir que vous avez donné au public du Soubok hier, parce que ça s'est vu sur tous les visages, et je pense que vous l'avez vu également depuis la scène.
Oui, franchement, voilà. On s'est bien régalé nous aussi. Super.
Je vous souhaite le meilleur pour la suite, et puis jubilé 2019, il va se passer des choses, là où c'est encore en gestation, les 25 ans du groupe.
On ne peut pas en parler tant que ce n'est pas réalisé, ouais. Hein, mais il y a des projets, bien entendu. Mais je voulais profiter, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un très grand chanteur de blues.
Et harmoniciste.
Et harmoniciste, très grand harmoniciste de blues qu'on adore, et qui est un ami, un des plus vieux amis du groupe Awake, qui s'appelle Youssef Remanna, voilà, qui chante merveilleusement avec plusieurs formations, avec Mike Green entre autres en duo, et puis avec le French Blues All Star aussi. Avec Simon Boyer, Thibaut Chopin, Anthony Stelmazac et Julien Brunteau très souvent. Et c'est son anniversaire, alors l'ami Youssef, on souhaite un bon anniversaire, voilà, je sais que tu vas écouter l'émission.
Youssef Remanna, bon anniversaire à toi, j'en profite pour poser la question à Stéphane. Si jamais tu te casses la lèvre, Youssef, il joue à ta place dans Awake, il n'y a pas de problème.
Oui, sans problème. D'autant plus qu'il a déjà enregistré sur un disque d'Awake qui s'appelle... C'est quel disque déjà ?
Il en a fait trois, en fait.
Barbershop. Ouais. Barbershop.
Ah oui, Barbershop, on est en 2001. Là, c'est déjà...
Barbershop, Messing with the Blues, je crois, aussi.
Mmh. Oui, il a fait trois disques avec nous, Youssef. Ouais.
Donc, celui d'avant aussi, je crois, Barbershop, je ne sais plus comment il s'appelle.
Mais voilà, c'est...
Chess Session, oui.
Ouais.
Voilà. Ah, Youssef.
La discographie complète de Awake est-elle toujours disponible ? Parce que là, tu parles de 10 albums. Moi, je vois le Nine qui continue à se vendre, qui est votre meilleur album, à mon goût. Long Distance, qui est sorti début 2017, qui est le tout dernier bébé. Mais alors, si on veut se procurer Barbershop, par exemple, est-ce que c'est toujours possible ?
On peut se procurer Barbershop. Il faut simplement ou nous écrire, ou venir nous voir en concert. On a toujours un ou deux exemplaires avec nous.
Très bien.
Mais ça, c'est... Bon, comme il n'y a pas Stéphane, c'est quand même difficile de vendre Barbershop comme ça à la fin d'un concert. Il faut que ça soit vraiment des gens qui aient déjà la collection. Bon, on va plutôt vendre des disques qu'on a fait avec Stéphane. Puis on en a fait, plus de la moitié de notre discographie avec Stéphane. Donc,
et puis il y a les Early Years aussi. Ça, c'est quelque chose que vous avez décidé de sortir il y a
très longtemps. Oui, parce qu'on n'avait plus d'exemplaires des trois premiers CD, enfin des deux premiers plus le quatrième. Donc plutôt que de refaire un tirage, on a fait un double album.
Avec 28 titres quand même.
Avec 28 titres, oui. Où on retrouve l'essentiel de ces trois disques-là.
The Early Years, donc on peut se procurer également. Vous l'avez dans votre valise régulièrement sur
scène ? On l'a avec nous toujours, oui.
Apologize pour le public de Fauville-en-Co qui ne pourra pas acheter le dernier album d'Awake ce soir parce que vous avez épuisé le stock, c'est ça ?
On est parti depuis 9 jours, je crois, et on a fait beaucoup de concerts. Et voilà, on était victime de notre succès, on a tout vendu.
Donc, fashion victime.
Voilà.
C'était un très très grand plaisir de vous recevoir tous les quatre, Joël, Stéphane, Olivier et Bernard du groupe Awake, hier soir au Soubok à Coville, ce soir à Fauville-en-Co, et puis dimanche c'est le retour vers Toulouse. Ça va aller les gars quand même, C'est des heures sur la route. Hein.
On rentre à la maison, donc ouais. C'est toujours sympa après une belle tournée comme ça.
Les prochaines dates sont disponibles sur awakeblues.com, j'imagine.
Oui, on sera en Bretagne. On va d'abord à Nantes. On va faire une autre très très bonne émission de radio.
Vous allez faire un petit bisou à mon ami Francis Rateau et à mon autre ami Christophe Moreau.
Avec Christophe Moreau et Francis Rateau. Oui, donc dans Prune de Blues.
Très bien.
Ça se passera, je crois, le 12 avril.
C'est ça.
Et le lendemain, on sera au Dynamo. Donc, super club qui est à Nantes.
Ouais, ouais, c'est tout petit, mais c'est génial.
Voilà, il paraît que c'est un très bel endroit.
On sera à Morlaix. Ouais. Et puis, on finira par la belle salle de la Traverse à Cléon.
Alors là, vous faites une première partie. Oui, vous faites une deuxième partie.
Charles Pazzi.
Si, il y a Charles Pazzi, voilà, c'est ça. Moi, je dirais un double plateau parce que, Charles Pazzi, voilà. Mais Awake, quoi.
Non, ce qui est marrant, c'est que Charles Pazzi, quand il a démarré, il a fait la première partie d'Awake. Et là, il fait une très, très belle carrière. Il a signé pour un gros label de jazz.
Hein, et il passe très régulièrement sur France Inter.
Et voilà, donc il fait une super carrière. Et donc, c'est normal, il va attirer plus de monde. On va profiter un peu de lui.
Enfin, Awake à la Traverse quand même. Ça, c'est un long travail.
C'est pour quelle
travail.
Date ça? C'est pas le 23 avril, un truc comme ça? Je sais plus exactement.
Non, c'est le 14 avril. C'est 14 le samedi avril. De cette
14
semaine-là,
15,
en tout cas.
Ouais.
Ouais. Très bien. Merci les garçons, et puis bonne route.
On embrasse tout le monde, tous les
merci
copains.
Marc.
Merci Marc.
Et puis tous les copains de ce soir, ouais, gros bisous.
Voilà, et puis merci aussi à Fred Delforge, qu'on est très heureux de voir aujourd'hui encore.
Fred Delforge qui va m'aider à interviewer notre prochain invité. Joël, pardon.
C'est une belle chronique à lire de la soirée d'hier soir.
Exactement.
Sur Zikazik.
Tout à fait. Zikazik.com, il y a une belle chronique de la soirée d'hier. Et il y en aura peut-être encore une pour demain à propos de la deuxième soirée de ce Subok Blues Festival. On poursuit avec un extrait de Long Distance Awake, ça s'appelle The Hustle Is On, c'est une reprise de T-Bone Wall. Girl. Et voilà, juste le temps du morceau, et le groupe AWEC est déjà reparti en véhicule sur l'autoroute A13 en direction de Fauville-en-Caux. Voilà, vous pourrez suivre toutes les péripéties du groupe sur awecblues.com. Merci encore à vous tous les quatre d'avoir participé à ce 1033e Sweet Home Chicago. On est ensemble jusqu'à 15h et on a deux autres invités qui sont au téléphone tout à l'heure. On aura Fred Chapelier à propos de la sortie de cet album de Fred Chapelier and the Gents featuring Dale Bledge chez Dixie Frog Borderline Blues. Et puis on aura également Daniel Léon qui nous parlera de son ouvrage qui s'appelle Charlie n'est pas mort en vain. Donc Daniel Léon, qui aurait dû être avec nous dans le studio d'ailleurs, mais qui a dû rester à Lyon pour des circonstances avionnesques, on va dire. C'est la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, on fait pas toujours ce qu'on a prévu de faire. Et c'est pour ça que la vie, c'est intéressant. Voici Fred Chapelier and the Gents, ça s'appelle 3:45 AM. Et juste après, on aura Fred au téléphone. J'espère que ça marche, croisons les doigts.
à deux.
Voilà, ça s'appelle 3:45 AM et c'est extrait du tout nouvel album de Fred Chapelier and the Gents featuring Dale Blade qui s'appelle Set Me Free chez Dixie Frog Borderline Blues. Fred Chapelier au téléphone, comment vas-tu Fred ?
Bien, merci Marc, ça va.
On t'entend bien. Cette fois-ci, on a conjuré le sort, la technique ne nous trahit pas. Merci Fred d'accepter de réitérer cette interview ratée la semaine dernière. Et puis, je crois que tu es sur la route actuellement, toujours très très occupé Fred Chapelier.
Oui, en fait, on était en concert hier au Théâtre de Sens, dans Lyon. Et on joue ce soir à la boîte à musique à Waterloo, dans le Nord, à côté de Lille. Voilà, donc je me suis arrêté pour te parler.
C'est très très sympa de ta part. En tout cas, voilà, je ne vais pas te retenir très très longtemps. On va parler un petit peu de l'album et on va parler peut-être déjà rapidement de cette rencontre avec le chanteur Dale Blade. C'est passé sur un festival, un garçon qui vient de la Nouvelle-Orléans, hein, c'est ça ?
Exactement.
Alors comment as-tu rencontré ce chanteur et surtout pourquoi as-tu eu l'idée de faire quelque chose avec lui ?
En fait, on s'est rencontrés en 2014 sur le Cahors Blues Festival parce qu'on était conviés à faire un plateau commun pour célébrer la musique de la Nouvelle-Orléans.
Oui.
Et donc il y avait pas mal d'Américains et moi on m'a demandé de tenir la guitare. Ce soir-là, donc évidemment j'ai accepté avec plaisir, et c'était un espèce de coup de foudre musical entre Dale et moi. Quand je l'ai entendu chanter, j'étais quand même très impressionné, et il a d'après ce qu'il me dit, eu le même ressenti en m'écoutant jouer de la guitare, donc voilà, ça a été un premier coup de foudre musical.
Et c'est ça peut-être qui t'a donné envie de dire aux gens, maintenant je vais plus jouer sous mon nom Fred Chapelier, ce sera Fred Chapelier and the Gents, et il y aura des invités, et le premier de la liste c'est Dale Blade, c'est ça ou il faut comprendre?
Ouais, c'est ça, en gros c'est ça, j'avais envie de... Moi j'ai toujours adoré accompagner des bons chanteurs, je l'avais déjà fait avec Billy Price, j'ai fait avec pas mal de personnes.
Tu l'as fait avec Jacques Dutronc?
Je l'ai fait avec Dutronc, voilà, ça c'était, même si c'est entre parenthèses et à part, mais je l'ai fait aussi, j'avais travaillé avec Otis Clay aussi aux États-Unis.
Exact.
Enfin, voilà, j'adore les voix, je pense que c'est l'élément essentiel dans la musique. C'est ce qu'on écoute en premier, enfin bon, d'après moi, c'est ce que j'écoute en premier en tout cas. Et je me suis toujours dit qu'un jour je trouve le chanteur qui est pas trop loin, qui correspond à mes envies musicales, peut-être qu'on pourra partir sur un projet de ce type-là. Et ça a été une évidence, quoi. Quand j'ai entendu Dale, ça a été une évidence. Après, pour des histoires de calendrier, ça nous a pris quelques années pour pouvoir être libres tous les deux de faire ce projet.
Voilà, avec un enregistrement en 2017, sorti de cet album en mars 2018. L'album s'appelle Set Me Free. Il est sorti avec la complicité de quatre autres musiciens. Je ne suis pas tout seul dans le studio. Fred, je te présente Fred.
Tu peux prendre... Salut Fred.
Tu vas bien ?
Ouais, ça va bien.
Tu as reconnu ?
Fred Delforge.
Exact.
Gagné.
Voilà. Ah, salut Fredo.
Voilà. N'oublie pas de parler tout près vraiment du micro. Fred, vous avez une petite histoire commune, vous avez partagé des choses. Fred Delforge, t'as un petit coucou à faire, une petite question à poser à Fred Chapelier.
On a surtout partagé une énorme amitié.
Et une chambre d'hôtel aussi peut-être.
Non, pas une chambre d'hôtel, on était pas ensemble.
Ouais, ça faut pas le dire.
Quoi qu'on se croisait souvent dans l'ascenseur le matin et au petit déjeuner, mais
oui.
Non, on a surtout partagé des très bons moments et Fred Chapelier est quelqu'un que
j'apprécie
énormément. Et alors la création avec Dale Blade, je trouve ça génial parce que Dale est une personne attachante que j'ai connue moi aussi à Cahors en même temps que toi et avec qui on est resté peut-être pas très proche mais très fidèle. Dale, quand il me croise dans la rue ou quand il me croise, on s'était vu au Billy Bob's il n'y a pas très très longtemps, il vient tout de suite vers moi, comment tu vas ? Enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément artistiquement et humainement.
Oui, il est très attachant, il est très enthousiaste, très très gentil avec les gens d'une manière générale, et il est très apprécié.
Je reprends la main, Fred. J'avais une question à te poser la semaine dernière, et puis maintenant, je profite que la technique ne va pas nous trahir. C'est pas forcément quelque chose de très réjouissant, mais on va rappeler ta collaboration avec Jacques Dutronc pour la tournée 2010, qui a fait presque 90 dates, je crois. Et puis de fait, ensuite en 2014 puis 2017, c'est deux tournées des Vieilles Canailles avec bien entendu Eddie Mitchell et Johnny Hallyday. Johnny qui nous a quitté le 6 décembre dernier, et je crois bien qu'en juin 2017, tu es l'un des derniers guitaristes avec ses autres musiciens à avoir partagé la scène avec Johnny. Je voulais savoir si ça avait pour toi une signification particulière, Fred.
Alors je confirme que je suis un des derniers guitaristes à avoir joué avec Johnny, puisque ces derniers concerts ont été les concerts de la tournée Vieilles Canailles 2017.
Et oui.
Donc oui, j'ai joué le dernier morceau de Johnny, le dernier morceau que lui a jamais chanté sur scène. J'étais là à ses côtés, effectivement. Et je pense qu'on a la dernière chanson qu'il a chantée, c'est toute la musique que j'aime. Donc ça représente quand même beaucoup.
Ah oui.
Oui, il y a tellement de signes là-dedans. Voilà, à Carcassonne, dernière date de la tournée, beaucoup de monde, grosse ambiance. Il était très malade, mal en point même, je dirais. Mais heureux quand même, parce qu'il était entouré de sa famille. Et puis, dès qu'il mettait un pied sur scène, il était heureux de toute façon. Et tel le phénix, voilà, il renaissait de ses cendres. Et malade ou pas malade, mourant ou pas mourant, parce que faut dire les choses comme elles sont, il était mourant pendant cette tournée déjà.
On le savait en très mauvaise santé, on le savait atteint d'un cancer déjà à ce moment-là, mais peut-être bien qu'on ne pensait pas à une issue aussi proche que six mois après ces dates-là. Quoi.
Ouais, nous, de l'intérieur, on le savait et on s'y attendait. Hein. On voyait bien qu'il n'y avait plus aucun espoir et que voilà, c'était le bout du chemin. Donc, il est allé jusqu'au bout avec beaucoup de courage et beaucoup de force, et puis voilà, c'était un lion sur scène, et malade ou pas malade, il a donné jusqu'au bout, et c'est vrai que ça fait quelque chose quand même de se dire que j'ai partagé ces derniers concerts. Voilà, c'est quand même émouvant, gratifiant pour moi. Moi, je suis très fier d'avoir partagé cette expérience avec lui, en tout cas.
Avec d'autres musiciens qui sont, pour certains, des amis. On pense à Greg Slapp, on pense à Yann Tito.
Bien sûr.
Des gens qui vont peut-être s'aimer dans d'autres formations. Tu as eu l'occasion de discuter avec eux depuis le 6 décembre dernier ?
Non, pas vraiment, parce qu'on a tous des projets différents, ouais. On tourne sans arrêt, et finalement, on ne s'est pas croisés depuis. Juste Greg est venu faire un concert avec les Gents, ouais. En remplacement de Paco, qui n'était pas disponible ce jour-là, et ça s'était magnifiquement bien passé, mais je suis peut-être en train de te dire une bêtise, parce que je crois que c'était avant.
D'accord. C'était à la fin de l'automne dernier. On va revenir sur cet album, Fred. Fred Chapelier and the Gents. Pourquoi The Gents, les gentlemen du blues, c'est ça?
C'est exactement ça que j'ai voulu dire. Hein.
Ouais.
C'est ça. Hein. Parce que je les trouve classieux, ces garçons.
Ah, c'est la question que j'allais te poser. Quand on voit des gens comme Christophe Garraud, Guillaume Destarac, Philippe Bilouin, je connais moins, mais bon, sur photo, voilà, c'est quelqu'un qui en impose aussi. On vous voit tous les cinq, avec vos lunettes noires, un peu la Blues Brothers, là. Vous êtes des gens qui dégageaient une forte présence, quoi, rien qu'en photo.
Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que c'est cliché comme photo, mais c'est volontaire. Déjà, c'est volontaire et assumé. Mais effectivement, ces gens-là, moi, quand je les regarde, Paco aussi, c'est pareil, il a une dégaine, une tenue, mais ils sont toujours classieux. Et pas que dans la tenue, ils sont classieux d'une manière générale, dans la vie, dans le comportement et musicalement. Et donc, pour moi, ce sont des gentlemen. Donc c'est pour ça, ça m'est venu vraiment naturellement, quoi, The Gents.
Le choix des musiciens, Fred, je crois que c'est pas fait tout à fait à la dernière minute, c'était quelque chose d'assez réfléchi. On va les égrener l'un après l'autre. Tu évoquais Baco, Pascal Michaelian, lui qui a longtemps officié derrière Patrick Verbeek, par exemple, hein, qui a fait également The Duo avec M. Langlois. Baco, il habite pas ta région, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément facile à toucher, en dehors des dates, évidemment, mais voilà. Pourquoi ce choix? Pourquoi cet harmoniciste?
Ben parce que Baco, quand même, on se croise depuis 10 ou 15 ans et j'ai toujours adoré le personnage, le son, sa façon de bouger sur scène. C'est un ensemble. Et c'est assez valable pour tous les musiciens de ce groupe, d'ailleurs. Mais voilà, je le trouve classieux et adorable et facile à travailler. Mmh. voilà, c'est imposé naturellement, quoi. Quand je me suis dit pour un harmoniciste, j'ai tout de suite pensé à Baco et je ne suis pas allé chercher plus loin, évidemment.
Alors, Christophe Garot à la basse, alors lui, je crois que c'est pareil, vous ne connaissez pas depuis 15 jours. Hein.
Ben, en fait, on se connaissait depuis quand même pas mal de temps et je connaissais son travail avec plein d'artistes différents. Et à chaque fois qu'on a eu l'occasion de jouer ensemble, parce qu'il faisait partie du BTC aussi, hein, Neil Black, Nico Wayne Toussaint, Fred Chapelier.
Oui.
Voilà, lui, c'est pareil, c'est un garçon qui vraiment est très solide musicalement. Avec Guillaume Destarac à la batterie, pareil, qui est très très solide rythmiquement. Tous les deux, ça marche. En fait, de temps en temps, il y a des sections rythmiques où les deux sont excellents, mais ensemble, ça marche pas forcément.
Oui.
Eux, j'ai eu l'occasion de les entendre jouer ensemble et de jouer avec eux ensemble, parce que Destarac a aussi quelques concerts avec le BTC. Et je savais que ce couple-là fonctionnait parfaitement.
Guillaume Destarac, au départ, était le batteur de Nico Wayne Toussaint. Tu l'as débauché de chez Nico Wayne Toussaint, finalement.
Non, pas du tout. Je ne l'ai pas débauché. J'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait ça à un pote comme Nico. Il se trouve que Nico a pris un peu le large à un moment. Et
il est parti en Guyane aussi, accessoirement, il est parti travailler un an.
Voilà, donc Guillaume, pile poil au moment où j'avais besoin de lui, il était complètement disponible.
Voilà.
Donc ça a très bien tombé.
On termine avec Philippe Bilouin, que je ne connaissais pas, que tu vas nous présenter, qui joue du clavier.
Ouais, alors Philippe Bilouin, c'est un pianiste qui vient plutôt du jazz, mais qui accompagne des gens différents. Il joue aussi un petit peu avec Chris Bergson, le guitariste new-yorkais.
Ouais.
Il joue avec un artiste français qui s'appelle Barcelona, mais là qui est plutôt dans la chanson française.
Oui, oui.
Il participe à des troupes de théâtre, à des troupes de marionnettes. C'est un mec qui peut tout faire et qui le fait bien.
Bon.
Et il habite assez proche de chez moi et j'ai entendu jouer du piano sur des titres blues et j'ai été tout de suite convaincu. Et pareil, j'ai pas cherché plus loin. C'était la solution facile.
Et l'aventure est arrivée, ce sont les Gents, c'est le groupe avec lequel tu te produis, tu as commencé à te produire avant la sortie de cet album qui...
Oui.
Hein, voilà, l'album qui est sorti il y a 8 jours maintenant, c'est ça ?
C'est ça, il est sorti il y a... C'est ça, exactement.
Et qui commence à avoir des échos, des chroniques, on pense à Fred Delforge, donc pour Zika Zik notamment. Voilà, il y a les trimestriels qui sont sortis, je ne sais pas si tu avais la possibilité de l'envoyer pour les trimestriels du blues qui sont sortis entre le 15 et le 20 mars, je pense à Blues Magazine, je pense à Soulbag. Je t'avoue, je n'ai pas encore le temps de tout fouiller, tout regarder, mais j'espère pour toi et pour eux que tu as pensé à l'envoyer à des médias comme Télérama, comme le Nouvel Obs, comme le Figaro, je ne sais pas si ça fait partie du...
Écoute, c'est Dixie Frank qui est une boîte sérieuse qui s'en occupe.
Oui,
je n'en vois rien à personne parce que j'ai déjà beaucoup de travail sur la route et sur la chaîne. Donc c'est Philippe Langlois et David Isaac, pour Ryan Blues, qui s'occupent de tout ça. Mais oui, ils ont fait un énorme travail sur cet album et on a déjà beaucoup, beaucoup de chroniques. On en attend d'autres, évidemment. Beaucoup de visibilité avec cet album, des interviews, comme tu as pu le constater. Voilà, et en tout cas, il y a eu un gros, gros travail sur cet album, plus que sur mes albums précédents.
Plus que sur tes albums précédents. Il y a eu un concert mardi dernier, on aurait dû en parler la semaine dernière pour le présenter, mais là, on va en faire le bilan. Il y a un des auditeurs de l'émission qui s'appelle Stéphane KLM qui me demande de te féliciter de sa part pour mardi soir, parce que visiblement, il faisait partie du public. Et puis, je voulais avoir ton avis de l'intérieur. J'ai eu l'impression, en lisant Facebook, que tu avais gardé un excellent souvenir de cette soirée de mardi au New Morning.
C'était ce qu'on appelle une grosse soirée.
Ouais.
Une grosse soirée. Vraiment, vraiment, à tous les niveaux. Il y avait... Le New Morning était rempli. Il y avait des vibrations positives, des ondes vraiment positives ce soir-là. On ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça. Et le public était vraiment bouillant, chaud bouillant.
Ah.
Et du coup, nous aussi sur scène, c'était une grande fête. En fait, je voulais que ce soit une grande fête pour célébrer la sortie de cet album. Et ce fut le cas, en tout cas.
Bon, voilà. En tout cas, voilà, c'était objectif réussi. Je voulais savoir également s'il y avait moyen, s'il y avait des opportunités de te voir sur des prochaines scènes. Je pense toujours aux auditeurs là, qui n'ont pas forcément le lien en tête, qui ne vont pas avoir forcément le réflexe. FredChapelier.com, ça existe toujours.
Ouais, en fait, c'est
fcandthegens.com. fcandthegens.com. On va taper ça, voilà. Et puis on va aller chercher toutes les dates, bien sûr. Je vais m'en faire l'écho sur le timeline Sweet Home Chicago Facebook. En tout cas, une date ce soir, tu peux déjà nous en parler. À quel endroit, où et quand?
Alors, ce soir, nous sommes à la boîte à musique à Waterloo. C'est dans la banlieue de Lille. C'est un club que j'ai déjà fait il y a un an et demi à peu près. Mmh. Et voilà, je pense que c'est comme hier et comme au New Morning complet. Voilà, on surfe sur la sortie de cet album. Et pour l'instant, tout se passe super bien. Beaucoup de belles dates qui arrivent. J'ai pas tout en tête et puis j'ai pas mon calendrier avec moi, mais voilà, pour l'instant, tout se passe très très bien.
Eh ben écoute, on te souhaite le meilleur. Effectivement, moi j'ai les dates. Là, c'est le site qui est très très bien fait d'ailleurs, qui s'affiche à tout nouveau site Fred Chapelier and the Gents. Voici les concerts. Vous êtes redoutables en photo, les garçons, j'insiste. Hein, vraiment. Terrible. Donc, le théâtre de Sens, c'était hier. La boîte à musique, c'est ce soir. Tu en as parlé. Ensuite, on arrive à Saint-Moins. Tu vas aller faire du ski un petit peu. C'est pas tout à fait la fin de saison.
Non, en fait, là, c'est une date, mais c'est pas avec les Gents, c'est avec mon quartet.
Oui, Peter Green. Alors, il y a Longlaville dans le 54, sinon il y a la Belgique un petit peu.
Exactement.
Voilà, la Belgique, ce sera pour le 26 mai, Duvel Blues Festival. Tu continues à te produire dans. Alors, les festivals belges, c'est quelque chose, ça. C'est...
Ah, ben oui, c'est quelque chose. Et c'est toujours avec un immense plaisir qu'on va jouer en Belgique. Voilà, c'est la Belgique, l'Allemagne sont des pays où j'adore jouer parce qu'ils sont connaisseurs, ils sont enthousiastes et ils savent recevoir. Mmh.
Et puis on va signaler également une date importante, tu reviens au Cognac Blues Passion, ce sera pour le 1er juillet prochain, ça c'est pour les festivals de l'été. Fred Delfort, je ne sais pas si tu vas venir à Cognac cette année ou...
Non, j'ai un petit problème de timing, donc
bon,
je ne serai pas disponible.
Mais en tout cas, Fred Chapelier, lui, il sera avec The Gents. Voilà, vous pouvez découvrir bien sûr toutes les autres dates sur fcandthegents.com/concert. Fred, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu veux qu'on écoute maintenant? J'ai pas forcément préparé un titre en particulier. Quel est le titre que tu aimerais qu'on écoute juste à la fin de cette interview?
Tu parles d'un titre de l'album de Gents?
Non, je parlais le dernier Sylvie Vartan.
Eh bien, écoute, si tu me proposes
de Gents, bien sûr, Gents, bien entendu. Ouais.
Non, mais c'était pas forcément évident.
Mais t'as raison, attends, mais c'est vrai que tu es à quelques centaines de kilomètres d'ici, tu ne me vois pas exhiber la pochette Fred Chapelier and the Gents. Je rappelle quand même que c'est le disque coup de cœur du mois et puis qu'il a eu un bon succès aussi parmi les auditeurs. Il y a des gens qui m'en parlent. Du coup, est-ce qu'on peut trouver cet album exactement partout où on vend des disques, hein, ça c'est
exactement,
sûr. Hein.
Exactement. Et sur les concerts. Si les gens viennent nous voir en concert, on le vend évidemment à la fin des concerts.
Tout à fait.
Eh bien, écoute, j'aurais tendance à dire Set Me Free.
J'étais sûr et j'avais calé la plage 2, figure-toi.
Voilà, comme ça, nous sommes en phase.
Exactement. Fred, excellent concert ce soir à la boîte à musique. Et puis,
merci, les amis.
On reste en contact et puis on espère te voir en Normandie très prochainement. On va y travailler. Il faut qu'on fasse quelque chose.
Ça arrivera d'une manière ou d'une autre, ça arrivera, je te le garantis.
Bien sûr, tout à fait. Au revoir, Fred.
Je salue tous les auditeurs aussi. À très bientôt.
Merci.
Ciao, ciao.
Set Me Free, c'est le titre du tout nouvel album de Fred Chapelier and the Gents, featuring Dale Blais, le chanteur Dale Blais, dont on vient de parler, d'évoquer. Merci encore à Fred Chapelier pour cette interview. On arrive aller dans le dernier quart d'heure de cette émission avec un nouvel invité qui aurait dû être présent dans le studio avec nous. Il s'agit de Daniel Léon. Salut Daniel.
Salut, bonjour.
On t'entend super bien, malgré que tu ne sois pas tout à fait à côté de nous. Tu es sur Lyon, Daniel ?
À mon grand regret, je suis précisément du côté de Nevers et bientôt à Paris.
D'accord, donc ça veut dire que tu continues à te rapprocher de nous, mais tu ne vas pas atteindre ni Hérouville-Saint-Clair ni Coville, puisque il y a des circonstances qui ont fait que tu n'as pas pu te rendre présent pour le premier Subok Blues Festival. Alors, tu devais nous présenter...
J'en suis bien désolé.
J'ai bien compris ça. Non mais voilà, vraiment, tu es tout excusé, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on n'épiloguera pas ici. Tu devais nous présenter l'ouvrage dont tu viens de te rendre responsable, Charlie n'est pas mort en vain. Tu nous emmènes en 1934 dans le Mississippi à travers un roman. C'est un petit peu différent, c'est même complètement différent du livre dont on a pu parler il y a quelques semaines avec Eric Douady, qui nous brossait l'histoire du blues rock américain. Là, on est dans le roman, mais j'ai envie de dire, Daniel, avec quand même des références historiques, des références musicales, ethno-musicographiques également peut-être.
Tout à fait, effectivement, c'est pas un ouvrage thématique comme celui d'Eric. C'est un peu l'histoire déguisée du blues, quelque part aussi.
Ah, oui.
Mais c'est l'histoire d'un personnage fictif. D'ailleurs, les personnages sont fictifs, mais comme tu le disais aussi, il y a des références historiques, il y a une documentation que j'ai essayé de soigner autant que faire se peut avec mes maigres connaissances. Donc, pour raconter l'histoire d'un personnage qui fait une espèce de voyage initiatique, on va dire ça comme ça, dans les années 30, qui est pour moi une période importante dans l'histoire des musique dans l'histoire des États-Unis en général, hein. C'est la fin de la grande crise économique, c'est pas très loin de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est une période très intéressante, c'est la ségrégation pour ce qui est du peuple noir, bien sûr, dans les zones rurales du Sud, donc toutes ces choses-là qui ont marqué cette époque, eh bien, je m'en suis servi évidemment à la fois de prétexte et de contexte pour raconter un petit peu l'histoire du blues, l'histoire de ceux qui font le blues, de cet art, donc à cette époque-là, c'était un peu le but du jeu. Bien sûr, je voulais aussi que ce soit pas un ouvrage uniquement qui s'adresse uniquement à ceux qui s'intéressent au blues, mais aussi à des gens qui ne connaissent pas spécialement cette musique et qui ont envie de découvrir peut-être l'histoire d'un personnage au travers de cette époque et au travers de cet art musical. Si j'y suis à peu près parvenu, j'en suis très heureux. Voilà.
C'est un livre, tu penses, un roman qui pourrait être adapté au cinéma ou à la télévision?
En fait, ce que tu dis là est très intéressant, même si j'y ai pas réfléchi sur le fond, parce que d'abord, je pense que ce serait un peu prétentieux.
Non, c'est pas prétentieux. Ça n'est pas prétentieux. Je vais te dire pourquoi, et je vais te dire pourquoi je te pose la question, parce que il y a quand même un certain nombre de faits dans ce que tu énonces, dans ce que j'ai pu lire à droite à gauche, qui peuvent évoquer, je sais pas. Je pense à Ray Cooder. Tiens, je vais te donner un premier indice. Ray Cooder, je te donne Mississippi Blues, par exemple. Si je te parle d'un combat de guitare avec un certain Steve Vai, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Au cinéma, bien sûr. Hein.
Tout à fait.
Voilà. Donc je ne sais pas si ce roman qui s'appelle, on va le rappeler, Charlie n'est pas mort en vain, mais il y a un sous-titre qui est important qui s'appelle Le blues en héritage. Est-ce que ce serait adaptable à l'écran?
Oui, bien sûr. Bien sûr, j'y pense. En plus, des gens de mon entourage, donc toi aussi, en l'occurrence, m'en ont déjà parlé, m'ont parlé d'une adaptation éventuellement cinématographique, voire même d'un documentaire, parce que ça peut aussi s'aborder sans doute sous cet angle-là, parce qu'encore une fois, j'ai fait attention à l'aspect historique, hein, j'ai fait des recherches aussi, hein, les personnages sont fictifs, l'histoire est fictive, mais les lieux sont réels, et les lieux à cette époque sont réels aussi, hein, ils sont ramenés dans les années 30. Après, là où c'est amusant, et où je disais c'est doublement intéressant, c'est que même si pour l'instant je ne vais pas trop en parler parce que c'est pas encore du tout officiel, on vient de me proposer, mais c'est vraiment, quand je dis on vient, c'est la semaine dernière, d'en faire une adaptation en bande dessinée.
Ah oui, ben voilà, une autre piste, effectivement.
C'est la même chose, mais c'est très intéressant quand même. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu connais, alors toi qui habites à Lyon, tu connais forcément les Chic Types? Un groupe qui s'appelle Les Chic Types, un groupe qui s'appelle Les Chic Types, non, avec Cédric Vernet, non, ça te parle pas?
Non, non, je suis désolé.
Ah non, mais ce n'est pas aucun problème. Ça veut dire que je vais passer directement à la question suivante. Il n'y a pas de souci. Non, parce que tout simplement, ils ont collaboré avec une auteure que elle, dont tu as peut-être entendu parler, qui s'appelle Marie-Yvonne Ripert.
Ah oui, oui.
Alors, voilà.
Si, si. Donc, si, alors. Si, je suis désolé, j'avais mal compris. Mais oui, si, si, je les connais. Oui.
Tu les connais. Et donc eux, ils ont collaboré ensemble. Ils ont fait quelque chose qui est à mi-chemin entre l'écriture et la musique, justement. Est-ce que c'est un livre qui a été inspiré par un disque ou un disque qui a été inspiré par un livre? Voilà encore une autre piste, peut-être pour rendre les choses encore un petit peu plus vivantes. Je sais que toi, tu es porté par le côté littéraire, les enflammés lyriques, hein, effectivement, autour d'un fantasme qui est le bluesman. On peut transpirer en écoutant Robert Johnson, mais je pense qu'il y a d'autres icônes comme ça qui surgissent au fil de l'histoire du blues. Tu as très certainement été biberonné à l'encyclopédie du blues de Gérard Herzhaft, un autre Lyonnais.
Bien sûr.
Hein, et voilà, rappelons ton engagement dans Soulbag, dans lequel tu écris merveilleusement, et ça depuis de nombreuses années. Je me souviens également de toi en train de nous traduire des interviews de musiciens américains sur le festival de Cognac. Hein, tu t'as commis plein de choses. Voilà, tu baignes dans le blues depuis longtemps, Daniel. La question qui arrive, c'est le côté littéraire. Est-ce que c'est forcément l'entrée principale pour plaire au plus grand nombre et notamment aux amateurs de blues?
Oui, bah oui, mais bien sûr, c'est vrai qu'il y a plein, il y a effectivement, j'ai commis pas mal de forfaits, comme tu l'as dit, donc bon, je moi-même de la radio, bien sûr, ça allait jusqu'à des conférences de presse au Festival de Cognac, et puis d'autres choses encore que tu as citées, et c'est vrai que moi je viens du monde de l'édition, puisque dans une autre vie, je travaille dans le bouquin, effectivement, en termes de comme auteur, traducteur et autre chose, et effectivement, je pense que le livre, moi ce livre, je le vois aussi comme une façon de rendre hommage, déjà, rendre hommage à ceux, encore une fois, qui font cette musique, et puis effectivement, d'offrir, j'espère une porte d'entrée à un public qui pourra y venir par la lecture de l'histoire d'un personnage, encore une fois, qui n'implique pas de connaître parfaitement cette musique. Si on la connaît, c'est bien, parce qu'effectivement, il y a des références historiques. Si on ne la connaît pas, c'est pas dramatique. Alors oui, j'espère que le livre pourra le permettre. Tu parlais de Gérard Herzhaft, alors je ne vais pas me comparer à Gérard, mon Dieu. L'encyclopédie du blues, c'est un autre type d'ouvrage, bien entendu, mais Gérard a aussi fait un excellent roman qui s'appelle Un blues en la mineur.
Ah, exactement, je me souviens de ça.
Moi, je me suis dit qu'il y avait peut-être la place, tu vois, je dirais ça un peu comme ça. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être la place avec un roman sur le blues, cette façon d'aborder l'histoire du blues d'une façon un peu romanesque. Il y avait peut-être la place qu'effectivement, comme tu dis, d'ouvrir ça aussi et puis de s'adresser à un public, mon Dieu, j'espère, aussi large que possible. Et que c'était un moyen, effectivement. Alors, mon passé éditorial m'a sans doute un peu aidé, mais j'ai eu envie de faire ça parce que, sans prétention encore, parce que finalement, en France, ça n'existe pas tellement. Hein. Je veux dire, il y a plus d'ouvrages thématiques, il y a plus de biographies. Je n'ai rien contre les ouvrages thématiques et les biographies, parce que dans un autre domaine qui est la montagne, j'en ai écrit et traduit près d'une vingtaine.
Oui. On peut voilà. Alors, si on tape Daniel Léon sur Amazon, on retrouve plein de choses. Hein. Ça, je l'ai testé il y a déjà fort longtemps. Et ton autre passion, c'est l'alpinisme. Hein.
Oui, là, voilà, c'était l'alpinisme, la montagne. Bon, je sais moins qu'avant pour des questions d'âge. Mais voilà, donc mais ce passé m'a servi. Et puis, tout ce que je faisais dans le blues par ailleurs, en termes de radio, en termes de participation à des festivals, en termes de collaboration pour Soulbag depuis 25 ans, eh bien, ça m'a conduit à ce livre. Et puis, je vois en ce livre un moyen. C'est ma seule ambition, prétention, c'est de permettre à un public qui n'est pas spécialement très très spécialiste en quelque sorte de cette musique, de découvrir un peu cet art, de découvrir ce peuple, de découvrir aussi cette époque, et puis peut-être d'autres époques si je fais des suites, sait-on jamais.
Daniel Léon, collaborateur à Soulbag, également collègue au collectif des Radio Blues, hein, j'avais oublié de le mentionner, mais c'est quand même important. On est de la même famille, on va dire,
hein, Daniel.
qui nous présente cet ouvrage qui s'appelle Charlie n'est pas mort en vain, le blues en héritage, avec une plongée dans les États-Unis du sud profond de l'immédiate avant-guerre, hein, c'est ça. C'est la période qui t'inspire le plus. Est-ce que ça fait partie également des disques, des enregistrements que tu écoutes le plus par rapport à tout ce que tu peux écouter?
Oui, Oui, c'est peut-être, je le dis, mais c'est peut-être une relativement récent. C'est peut-être la période qui m'intéresse effectivement le plus parce que la, bon, je suis passionné d'histoire et de choses très anciennes et la musique, les pionniers, ceux des années 20, m'ont toujours passionné. Et puis l'âge d'or avec l'arrivée de l'électricité, etc. Après la Seconde Guerre mondiale dans les années 50, est également une période fascinante. Mmh. Mais je dirais que cette période charnière, et je l'appelle charnière, finalement, c'est peut-être la. D'abord, elle n'est pas si connue que ça, parce qu'il faut voir que l'industrie discographique à l'époque était en difficulté avec la crise, justement, hein, puisque les studios fermaient, etc. Enfin, on ne va pas raconter cette histoire, ce serait trop long. Mais en tout cas, ça périclitait pas mal. Et donc, les grands créateurs avaient mis leur blues en place, le blues texan, le blues du Delta, le blues de Memphis, etc. Tout ça, ok, c'était bien à peu près défini. Mais ils avaient bénéficié de conditions d'enregistrement assez favorables. Dans les années 1, on vendait beaucoup plus de disques que dans les années 30.
C'est vrai,
donc
c'est
dans
vrai.
Les années 30, c'est la maturation en quelque sorte. Et c'est pour ça que, alors dans des conditions plus difficiles pour le disque, c'était beaucoup plus difficile d'enregistrer dans les années 30 que dans les années 20, et ensuite dans les années 40 et 50 aussi. Et c'est peut-être, oui, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de me plonger pour commencer dans cette période-là.
Il y a un bluesman qui est né il y a 100 ans, dont tu parles admirablement dans le tout nouveau Soulbag qui porte le numéro 230. Il s'agit d'Elmore James. Tu signes donc ce papier de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages avec photos et puis discographie collective. 6, qu'est-ce que je raconte ça continue sur les deux pages suivantes. 8 pages. Elmore James, le roi de la slide, qui a donné également matière à pas mal d'autres bluesman, puisque si je continue à tourner les pages de Soulbag, ce fameux dossier, la slide en héritage, où on a tous écrit sur des bluesman différents. On m'a demandé de faire un truc sur High Cooder, également sur Little Head. Et tu as été également sollicité. Voilà, une forme d'expression à la guitare qui n'appartient qu'au blues, ou je me trompe?
La slide, quasiment. Pas quasiment.
Alors,
oui,
la musique hawaïenne, évidemment.
Ouais, on parle de la guitare hawaïenne, mais c'est vrai que moi, ça m'a fait très plaisir quand Nicolas Ternier, le rédacteur en chef de Soulbag, m'a proposé de faire un dossier d'abord sur Elmore James et en particulier de s'arrêter sur la slide, parce que moi, et d'ailleurs, c'est dans le livre, hein, dans mon livre, notre personnage principal, il apprend à jouer de ce style-là de musique, hein, bien entendu, il est directement issu de ça, et moi, pour moi, la slide, oui, c'est l'expression du blues, parce que c'est l'instrument, en tout cas la technique instrumentale, plus exactement, qui exprime le mieux cette musique en termes d'émotion. C'est vraiment la prolongement, c'est ce que je dis dans Soulbag, hein, je ne fais que me répéter, c'est le prolongement de la voix, ça va au-delà de l'instrument, même si c'en est un, bien entendu, mais cette façon de jouer, elle est très propre au blues, et moi, avec peut-être l'harmonica, qui aussi permet d'exprimer beaucoup de choses très, très profondes en termes musicales dans le blues, c'est vraiment l'expression, ce qui exprime mieux l'émotion de cette musique. Ouais.
Daniel, on va être obligé de se séparer parce que l'émission touche très très bientôt à sa fin. Voilà, il va être 15h dans une poignée de minutes. Je voulais quand même qu'on revienne sur quelques petites choses pratiques. C'est vrai que les auditeurs parfois entendent et sont attirés par un disque, par une revue, par un livre. Ici, il s'agit de Charline et par Morenvin, signé de toi-même, Daniel Léon. Le blues en héritage, c'est un livre qu'on peut pas forcément trouver exactement partout, ou je me trompe?
Non, mais c'est juste, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, c'est une auto-édition, donc qu'on peut trouver en version de façon classique par Amazon, hein, je suis désolé, je vais le citer, donc par une plateforme comme Amazon, bien sûr, et en version numérique ou papier, hein, puisque c'est un livre qui est fait à la commande, donc il faut commander, vous pouvez obtenir un exemplaire papier ou numérique, ou bien en me le commandant directement à mon adresse, en m'envoyant des sous. Et puis j'envoie des exemplaires dédicacés en échange. Tout ça, je l'explique sur Facebook assez régulièrement. Dans le dernier Soulbag, c'est également mentionné. Voilà, donc pour aller sur Amazon, il suffit de taper mon nom.
Ça y est, c'est fait. J'ai mis ça sur le timeline Facebook Sweet Home Chicago. Amazon.fr/Charline. Pas bon, on va pouvoir.
Oui, voilà, c'est facile. Il y a. Il n'y a pas de souci, c'est très simple, c'est de se le procurer si on souhaite se le procurer de cette façon-là.
Pour être tout à fait clair, prix de la version papier 13,70€, prix Kindle 3,99€ pour lire l'intégralité, bien sûr le texte intégral de ce roman. C'est ce que tu, ce sera ma dernière question, Daniel, c'est ce que tu revendiques l'appellation de roman.
Oui, je pense que c'est un premier, oui, c'est vraiment un roman. C'est vraiment un roman, tout à part un personnage. une personnage, une dame, tout le monde est fictif, tout est fictif, toute l'histoire est totalement fictive. Je me suis reposé sur des lieux qui existent, des faits qui ont existé, mais par contre, toute mon histoire, tout mon personnage, tous mes personnages sont entièrement fictifs, donc oui, on peut parler de roman.
Daniel, je te remercie d'avoir participé à ce 1033e Sweet Home Chicago. Je te souhaite un bon vol pour la Guadeloupe après-demain.
Et oui.
Et tu vas quitter la métropole, c'est définitif ou pas?
C'est a priori définitif.
C'est a priori définitif.
Une fois mes émotions retrouvées, parce que j'ai eu quelques difficultés,
oui.
j'en parlerai, je communiquerai à ce propos sur Facebook. Je te remercie infiniment.
Merci,
je
Daniel.
Et puis ta belle émission. Et je te souhaite une bonne continuation et à tous tes auditeurs. Voilà.
On t'a pas entendu, Fred, pardon. Il y a Fred Delforge qui était également dans le studio.
Je voulais te remercier pour le livre qui est excellent, que j'ai commencé à lire. J'ai pas encore eu le temps de le finir, mais je trouve vraiment superbe. Merci beaucoup.
Voilà. Je sais pas si t'as entendu. En tout cas, Fred, voilà, je me fais le traducteur. Il a commencé à lire ton livre. Il le trouve superbe pour l'instant. Et puis, il va continuer à lire jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. Merci, Daniel.
Merci.
À tout
beaucoup.
Bientôt. Au revoir.
Au revoir, merci. Au revoir.
Voilà, nous on termine avec T1 Walker, parce que tout à l'heure ça m'a donné envie avec cette version de Hustle Is On de Awake. Bah, on va écouter la toute fin de Alimony Blues. On se retrouve le 14 avril. Salut, bye bye.